Bonsoir et bienvenue à vous. Il y a deux façons de vivre sa vie. L'une est de croire que les miracles n'existent pas, et l'autre que tout est miracle. C'est signé Albert Einstein. Et cette phrase ouvre le livre de notre invité, livre qui s'intitule « L'au-delà sans peur » aux éditions Favre. Elle est guérisseuse et médium, notre invitée, mais aussi cinéaste, écrivain et journaliste. Alors pour vous, dans la vie, il y a miracle ou il n'y a pas miracle ?
Entre nous soit dit, Lydia Gabor.
Alors pour moi, dans la vie, il y a à s'ouvrir aux petits miracles du quotidien, et c'est vraiment une histoire de posture intérieure que de savoir s'émerveiller. Et souvent quand on ouvre les yeux puis qu'on se met dans cette posture d'enfant susceptible d'être émerveillé, ben on les voit les miracles, il y en a.
Bonsoir Denise Kikuki-Gillian.
Bonsoir.
Alors pourquoi vous avez commis ce livre « L'au-delà sans peur » ?
Alors pour moi c'était très important à un moment donné de ma trajectoire de démystifier les peurs en lien avec l'au-delà. D'abord la peur de sa propre finitude, la peur de la mort, mais aussi ensuite toutes les peurs qui sont liées aux communications avec les défunts ou avec les guides spirituels, dans le but en fait d'aider tout un chacun à se relier, et se relier dans une belle énergie, sans avoir peur de déranger les défunts, sans avoir peur de les retenir. Mais surtout, en fait, ce qui m'importe, c'est de permettre à tout un chacun de se relier à ses guides spirituels, de réacquérir une dimension verticale, je pourrais dire ça comme ça, parce qu'on est fait autant de visible que d'invisible, et toute cette part spirituelle de nous demande à être vivante. Et j'observe dans mes pratiques de médium guérisseuse notamment, mais aussi dans les films, les livres spirituels que j'ai pu commettre, comme vous disiez, qu'en fait les peurs font obstacle. On a été quand même tous ici imprégnés de la culture judéo-chrétienne, qui d'une certaine façon nous met en garde contre les contacts médiums. Et les contacts en général avec l'au-delà. Donc comme on n'est plus tellement dans des cultures où on prie, il y a un appétit spirituel de la part des gens, en général, qui reviennent qui viennent à la méditation, au yoga, mais aussi aux pratiques de médiumnité. Mais parfois, ils y viennent avec une crainte. Donc voilà, ce livre sert à lever ces craintes-là pour amener de la joie, finalement, dans cette reliance.
Alors, ce titre présuppose beaucoup de choses. D'abord, ça présuppose qu'il y a un au-delà.
Certes. Alors c'est vrai que c'est à partir de cette croyance qui est mienne, cette conviction même, je pourrais dire, que j'ai écrit ce livre. Et il est vrai qu'il s'adresse à des personnes qui se posent des questions, qui sont ouvertes à cette croyance-là. Quelqu'un complètement fermé qui ne croirait en rien, le livre lui parlera pas du tout. Par contre, aux sceptiques qui se posent des questions ou simplement qui ont peur de leur propre finitude ou qui ont perdu quelqu'un, qui ont de la peine à faire un deuil. Et je pense là plus spécifiquement à des parents qui ont perdu un enfant par suicide, par exemple, il y a quand même toujours cette question, oui, mais est-ce qu'il va bien ? Est-ce que son âme, de l'autre côté, ne serait pas quand même d'une certaine façon punie ou ne serait pas errante ? Donc le livre aussi sert à rassurer par rapport à ces questions-là. Donc voilà, c'est un public effectivement ouvert à cette croyance que l'au-delà, c'est ce qui nous attend, n'est-ce pas ?
Oui, et qui existe.
Qu'il existe,
mais
évidemment.
Justement, mais... pour ceux qui n'y croient pas, ce livre peut apporter quelque chose ou finalement ils passent leur chemin.
Alors je pense que si on n'y croit pas mais qu'on a une ouverture, justement une curiosité, un appétit spirituel, oui, ça vaut la peine. Maintenant, si on est complètement fermé et très convaincu qu'il y a
que
rien
la vie
après,
s'arrête au moment où la vie biologique s'arrête.
Tout à fait. Donc du coup, non, je pense que ils arriveront à peine à la fin du premier chapitre.
Et vous, comment avez-vous acquis cette conviction ? Où est-ce que je pourrais dire cette connaissance ?
Alors, pour moi, c'est une connaissance. Maintenant, c'est sûr que ça peut être une conviction ou une croyance. Ça a été un chemin qui est long, évidemment. Mais j'ai toujours été guidée. J'ai toujours ressenti des présences. J'ai toujours eu le sentiment, quand on sortait ses antennes, l'univers nous aidait. Voilà, je peux formuler ça comme ça. Très, très longtemps.
Et, mais vous ne vous sentiez pas en décalage quand vous pensiez ça par rapport... à l'ambiance générale, assez pragmatique et terre-à-terre.
Alors très longtemps, en fait, j'en ai pas parlé parce que je pense que quand on vit ça enfant, on croit juste que c'est la norme. Aussi, moi, j'en parlais pas. C'était quelque chose qui m'habitait. J'ai commencé à en parler relativement tard, finalement. J'ai pu réellement mettre des mots dessus à partir du moment où, dans ma trajectoire, j'ai rencontré des gens qui pratiquaient la médiumnité ou le chamanisme ou la guérison spirituelle. Mais avant ça, je mettais pas tellement des mots dessus. Mmh. Et ensuite, j'ai eu l'occasion, en 2001, de faire un film aux frontières de la mort sur les expériences de mort imminente. Et je dirais que jusqu'à ce film, j'avais pas une culture spirituelle ou des convictions très arrêtées. Je le vivais et ça me suffisait, en quelque sorte. J'avais pas fait de recherche là autour. Je suis issue d'un milieu athée. Mes deux parents étaient des humanistes très engagés, mais complètement athées. Donc, je n'ai aucune culture religieuse. J'ai pas été baptisée. Je n'ai pas été enseignée, je pourrais dire ça comme ça. Donc, en fait, je suis arrivée très tard avec simplement des perceptions et des croyances faites de tout un tas de choses que j'avais lues. Ça n'est que quand j'ai fait ce film aux frontières de la mort que j'ai acquis vraiment la conviction de la survivance de l'âme après la mort du corps physique et du corps psychique. Et à partir de là, alors ça a été toute une quête. J'ai suivi une école de médiumnité, d'autres formations. Mmh. Voilà. Et petit à petit, cette croyance est devenue une conviction.
Mais est-ce qu'il y a eu une période où vous cherchiez des preuves?
Alors, j'ai toujours cherché des preuves, et encore aujourd'hui, d'une certaine façon, parce que je suis quand même une européenne, cartésienne, avec une bonne dose de scepticisme. Je crois très difficilement ce qu'on me raconte. Donc, en général, je cherche des éléments de preuve, ou en tout cas, je mène l'enquête assez loin, avant de prendre pour argent comptant ce qu'on me raconte.
Alors justement, c'est le sous-titre de cet ouvrage, Enquête, témoignages et conseils pratiques. Donc il y a un côté enquête, d'accord?
Il y a un côté enquête qui est mon côté cinéaste, documentariste. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir la double casquette. Je ne suis pas que médium guérisseuse, je suis d'abord enquêtrice. Je suis d'abord réalisatrice de films et documentariste, ce qui m'a permis de donner la parole à beaucoup de gens pour
donc,
cet ouvrage.
Donc enquête, ça veut dire témoignage. Vous avez recueilli des témoignages.
Alors ça veut dire témoignage, mais pas seulement. C'est aussi d'autres lectures, analyses, comparaisons. Raison d'un pays à l'autre. Donc l'enquête, j'ai essayé de la mener vraiment le plus rigoureusement possible et le plus loin possible.
Est-ce qu'il y a aussi un côté essai, c'est-à-dire proposition philosophique de position dans la vie?
Alors c'est sûr qu'à partir du moment où on s'intéresse à la spiritualité, la médiumnité est ô combien spirituelle, c'est tout un positionnement qui n'est pas que spirituel parce que ça donne du sens à la vie. Et si on donne du sens à la vie, on donne en quelque sorte une sorte de mode d'emploi, hein, du mieux vivre. Donc je dirais que c'est aussi un ouvrage, oui, philosophique, existentialiste, et qu'on pourrait dire de développement personnel.
Et puis moi j'ai aussi observé un côté pédagogique, un côté plaidoyer par rapport à cet au-delà sans peur.
Alors c'est intéressant ce que vous soulevez parce que le premier sous-titre c'était plaidoyer pour l'amour. Donc effectivement, je l'ai écrit comme une forme, enfin sous forme à un moment donné de plaidoyer parce que je pense que on y gagne tous et la société y gagne aussi à savoir se mettre dans une énergie d'amour et derrière l'ouvrage, il y a cette idée-là. C'est qu'en se reliant au spirituel, on se relie aussi à la belle part de nous. On est certes fait d'ombre mais on est d'abord fait d'amour et de lumière. Donc si on arrive à se relier à ça, ben c'est sûr que ça sert aussi la société et notre quotidien.
Et c'est ce qu'on va voir avec votre parcours aussi, que ce lien s'exerce, ce lien se pratique comme une discipline. C'est pas que je le sens aujourd'hui, demain je le sens plus. C'est quelque chose face auquel on peut être actif.
Absolument. Et mon côté pédagogue, justement, qu'on retrouve dans le livre, vient du fait que j'enseigne la médiumnité guérissante, mais surtout... Mon dada, je dirais, est d'apprendre aux personnes, et à moi d'abord, à se mettre dans une énergie d'amour, parce que c'est un apprentissage, au même titre que Matthieu Ricard ou le Dalai Lama parlent dans le bouddhisme de méditation de la compassion. Ben, il y a des méditations, d'autres formes de méditation, des méditations guidées qui se permettent d'apprendre à se mettre dans cette énergie de joie, d'amour, à partir de laquelle on est contagieux. Donc à partir de là, c'est sûr qu'il y a quelque chose de beau qui peut se développer en nous d'une façon très auto-guérissante, mais qu'on peut amener dans le monde par la suite.
Donc même si je me réveille grognon, je peux essayer de faire cette méditation.
Surtout si vous vous réveillez grognon, il est recommandé de commencer la journée avec cette méditation.
Alors dernière petite question pour cette étape, pourquoi les anges s'adressent seulement à certaines personnes ou ils s'adressent à tout le monde et seulement certaines personnes les entendent?
Alors pour moi, on a des alliés. je les appelle pas les anges. Je pense que c'est plus large que ça et que, quelle que soit notre conviction religieuse, hein, ou notre tradition, on a des alliés qu'on peut effectivement appeler anges gardiens, mais qu'on en a tous un. Ensuite, plus on va réussir à cultiver le calme, justement, et une sorte de réceptivité, d'aptitude à s'émerveiller, plus on va les entendre et reconnaître leurs signes. Très souvent, on a oublié, dans nos cultures occidentales, de communiquer avec l'au-delà, justement. Tant et si bien qu'on ne prie plus, et si on a des demandes, on les fait un peu à l'arrache et on n'écoute pas les réponses. Si on prend le temps d'écouter les réponses et de faire des demandes qui soient des demandes puissantes, réfléchies, oui, tout un chacun absolument peut les entendre, communiquer et recevoir des signes.
Alors c'est super parce qu'au bout de cette heure qu'on va passer ensemble, on aura un petit vademécum, un tout petit guide survival kit avec l'au-delà, des petites choses qu'on peut apprendre pour avoir considéré l'au-delà comme une ressource.
Mais absolument, tout à fait. Oui, ça me tient vraiment très à cœur de le partager.
Très bien, Denise Kikou-Gillian, donc vous êtes médium guérisseuse et aussi cinéaste. Vous signez Au-delà, l'au-delà sans peur aux éditions Favre. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 21h, le temps d'une première chanson et nous déroulerons votre propre parcours. Bienvenue à tous sur La Première.
Quand t'as laissé de ta jeunesse derrière les barreaux d'une prison, parce que t'avais eu de la tendresse pour une bagnole ou un blouson, quand t'as laissé passer ta chance ou qu'elle t'a pas reconnu, tu te retrouves en état d'urgence au bureau des objets perdus. Moi qui connais le gris des couleurs de la nuit, laissez-moi chanter pour ceux qui n'ont rien. Laissez-moi penser qu'il y a toujours quelqu'un qui cherche à donner quelque chose. Cherche à couper l'écart du destin. Quand t'as regardé passer ta vie avec l'impression d'être en faute, tu te demandes pas si t'as envie de vouloir être quelqu'un d'autre. Quand t'as regardé toutes ces vitrines avec tes mains derrière ton dos, si demain t'es James Dean, t'aurais l'impression d'être zéro. Moi qui connais le bleu des matins malheureux, laissez-moi chanter pour ceux qui n'ont rien. Laissez-moi penser qu'il y a toujours quelqu'un
Patricia Cass sur la première, où nous sommes en compagnie de Denise Kikou-Gillian. Et c'est votre choix musical, Denise?
Absolument, c'est mon choix musical. J'adore cette chanson et je la mets très souvent quand j'ai une baisse de morale. Parce que le message qu'elle délivre est magnifique. Hein. Laissez-moi penser qu'il y a toujours quelqu'un pour nous tendre à la main.
Oui.
Hein, et moi, j'ai beaucoup travaillé dans le cadre du cinéma en prison, en détention. Elle parle aussi de la délinquance hein, et de l'importance qu'il y ait quelqu'un, à un moment donné, qui pose un regard sur les plus fragiles d'entre nous. C'est fondamental. Donc ouais, Patricia Cass, pas tout Patricia Cass, mais cette chanson-là, je l'écoute souvent. Ouais, ça me rebousse l'espoir.
Et maintenant, il y a là, à côté de moi, un tout petit garçon. Un tout petit garçon qui a quel âge?
6 ans.
Un petit garçon qui a 6 ans et qui est un fervent de vie d'hypnose. Et qui va nous raconter beaucoup mieux que personne au monde ne saurait le faire, docteur, vous permettez. Ce petit garçon va nous raconter lui-même ce qu'il fait à vie. Alors, tu t'en vas de ta maison à quelle heure?
À 2 heures.
À 2 heures. Et puis tu vas jusqu'où?
À Chaudron.
À Chaudron, tu trouves ton moniteur?
Oui.
Et alors, tu descends de Chaudron avec tout ton groupe et ton moniteur?
Oui.
Tu arrives à Vidi-Plage et qu'est-ce que tu fais?
Je me déshabille.
Ah, c'est ça. Et puis tu cours à la plage? Vous allez dans l'eau?
On va dans l'eau.
Est-ce que tu sais nager?
Non.
L'année prochaine, n'est-ce pas? Sûrement. Et alors après le bain, vous rentrez ici et qu'est-ce que vous faites?
On met des autres caleçons, notre caleçon de soleil.
Et quand vous vous êtes changé, alors vous avez fait un peu de gymnastique?
Oui, puis après on fait de la course un moment, puis après on suit, puis se dire la collation, puis on va manger, on nous donne du pain, du chocolat, puis...
Ah, ben vous devez avoir une vie bien heureuse. Et tous les petits-enfants. Au revoir, mes enfants.
Et voici comme l'audace notre charmant Picoulet.
Voilà, c'est un petit reportage de Vidi-Plage à Lausanne dans les années 1965. Vous auriez pu presque y être.
Oui, je suis née en 64. Ouais.
Voilà, un peu petite, mais presque y être. Donc, vous êtes née à Lausanne.
Alors, je suis née à Lausanne, oui, tout à fait.
Dans quelle famille êtes-vous arrivée au monde?
Alors, je suis arrivée dans une famille, comme je le disais tout à l'heure, de militants gauchistes. Mon père était statisticien démographe et a beaucoup œuvré dans le social, planification hospitalière, AVS. Ma mère était première formation infirmière, mais très vite elle est devenue formatrice, formatrice Croix-Rouge. Les deux étaient très engagés en politique, Parti Socialiste. Et donc toute mon enfance, j'ai baigné dans des discussions qui étaient des discussions sociales, qui étaient des discussions sur le monde, sur des discussions
politique,
souvent politiques. Ouais. Donc j'ai été imprégnée de ça.
Une liberté de parole aussi.
Alors une immense liberté de parole, ouais, avec, j'allais dire, un sacré courage et culot. Parce que les deux ont fait des choses qui étaient inhabituelles. Par exemple, ils se sont installés en Sicile, à côté de Palerme, à Partinico, alors que je venais de naître, donc avec un bébé, pour amener la puériculture, la planification hospitalière à Palerme, alors que dans les années 65, la mafia était très très opérante. Mmh. Et ma mère me racontait que le matin, elle partait avec moi sous le bras, quoi, le bébé, et un bidon pour aller chercher l'eau. Il n'y avait pas de l'eau dans le village. Donc il fallait du culot, du courage, et souvent elle devait négocier avec la mafia pour pouvoir entrer dans les familles pour faire de la puériculture. Alors que c'était que de la puériculture, elle amenait du bonheur et un savoir-faire avec les tout-petits dans les familles, donc il n'y avait rien de politisé derrière. Donc voilà, ça dit assez bien le caractère de mes parents, qui étaient vraiment des personnes qui avaient à la fois du courage, du culot, c'était les premiers citadins à s'installer aussi dans un tout petit village du Gros-de-Vaux, Maracon. Donc des personnes particulières, originales, et c'est vrai que du coup, mon enfance était intéressante.
Et une fratrie, des frères et sœurs?
Alors, j'ai un petit frère qui a 2 ans et demi de moins que moi, François, et une petite sœur, Evelyne, qui a 7 ans de moins que moi.
Ouais. D'accord, vous étiez donc l'aînée?
Alors, j'étais l'aînée, et j'en garde un certain nombre de caractéristiques.
C'est-à-dire?
De type le sens des responsabilités, l'habitude de s'occuper des plus petits, etc.
Et quelle petite fille étiez-vous?
Alors, j'étais extrêmement rêveuse.
Donc, 2 ans et demi seule avec ses parents. Donc, là, vous les avez eus pour vous tout le temps.
Je les ai eus pour moi tout le temps et j'ai grandi, les premiers pas, les premiers mots, je les ai faits en Sicile, justement, à côté de Palerme. Et j'aime à penser que cette culture sicilienne m'imprègne encore. Parce que c'est vrai que chaque fois que je retourne en Italie, les odeurs, les goûts, etc., je me sens à la maison. Et ensuite, l'arrivée de mon frère, d'abord, François.
Toujours en Sicile?
Non, mes parents sont rentrés, ont passé un an en Sicile.
D'accord.
Ouais, et sont rentrés ensuite pour s'installer justement dans le le Gros de Vaud, à Maracon.
Quel était votre rôle dans la fratrie, à part d'être l'aînée?
Alors, j'étais assez introvertie, j'étais très rêveuse, donc je ne sais pas très bien comment vous répondre. Moi, j'ai le souvenir de m'être beaucoup occupée de mon frère et de ma sœur. Mm-hmm. On faisait des cabanes dans la forêt, dans la grange de la maison, etc. Donc, on était très liés et on s'entendait plutôt très très bien. Maintenant, quel rôle? Je sais pas trop. J'avais le rôle de l'aînée. Ma sœur me racontait des souvenirs, me disait, mais quand on allait dormir dans la cabane, tu me mettais 3 pulls parce que tu avais peur que j'aie froid. Ouais. Voilà, ça, je pense que ça dit quelque chose de l'enfant que je pouvais être, un peu soucieuse quand même aussi.
Il y avait d'autres personnes de la famille qui vous sont restées, je sais pas, une grand-mère, un grand-père. Oui. Parfois, il y a comme ça quelqu'un de la famille avec lequel on a une relation privilégiée.
Mais alors, absolument. Alors, mes grands-parents, côté maternel, sont des personnes qui ont énormément compté. Ma grand-mère, qui a maintenant 97 ans, est encore vivante. Et je suis
magnifique.
Très, très liée à elle. Ouais. Mm-hmm. Mayou. Et mon grand-père, lui, a été le membre de la famille avec lequel, encore aujourd'hui, je me sens le plus en résonance. C'est lui qui m'a ouvert au mysticisme, à l'ésotérisme, à l'art. C'est vraiment quelqu'un à qui je dois énormément. Et ma foi, qui est parti trop tôt, parce que j'avais 18-19 ans quand il est parti. Bon, mais en même temps, je l'ai rencontré pendant 18-19 ans. Mmh. Et j'étais très très liée à eux. J'allais beaucoup en vacances chez eux. Ils venaient beaucoup à la maison.
C'était où, chez eux?
C'était le dernier habitat qu'ils ont eu, c'était Mont-Soleil, dans le Jura. Mmh. Une magnifique ferme dans laquelle ils louaient un appartement. Et mon premier amoureux, Tony, était le garçon qui vivait dans la ferme, qui m'a appris à faire du cheval. Voilà, c'est des beaux souvenirs.
Est-ce que vous vous rappelez la première fois où vous avez été sensible à des messages venus de l'invisible? À
oui.
Quel âge, le premier souvenir que vous avez?
Alors, je me souviens pas d'un premier souvenir, mais plutôt d'un climat enfant. Comme on vivait à la campagne, j'adorais partir seule dans les champs, dans la forêt. Je marchais beaucoup, j'étais beaucoup, beaucoup dans la nature. Et j'avais toujours le sentiment d'être accompagnée. Et j'appelais cette présence le grand œil. J'étais toujours avec le grand œil. Voilà, alors, je discutais, j'avais des dialogues, mais aussi un sentiment d'être très coucounée, quoi, d'être très accompagnée. Donc, c'est pas un premier souvenir, c'est plutôt un climat. D'une présence, et ça a duré des années, ça m'a jamais vraiment quitté, cette chose-là.
Vous aviez déjà des antennes à ce moment-là, vous dites souvent, j'avais des antennes.
Oui, alors je pense qu'on les a tous, cela dit, jusqu'à un certain âge. Ensuite, on se referme, voilà, parce qu'on a besoin de développer d'autres forces psychiques et corporelles. Dans la nature humaine, il en va ainsi. Donc, je crois qu'on a tous des antennes. Peut-être que je les ai gardées ouvertes non-stop. C'est peut-être ça qui fait la particularité, je sais pas. Et ensuite, le premier souvenir de contact médiumnique, c'était avec mon grand-père que j'adorais, justement, quand il est parti, j'ai eu le sentiment vraiment de l'accompagner dans la lumière.
Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, L'au-delà sans peur, c'est aux éditions Favre.
Darker. We kill the flame. the guards had taken aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hineni, hineni, I'm ready, my lord. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the love that never came. You want it darker? We kill the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker? Hineni, hineni.
La voix de Leonard Cohen, c'est son dernier single, c'était en 2016. Et vous avez choisi ce morceau, Denise Kikou-Gillian, pourquoi ?
C'est un morceau qui me touche profondément, que j'écoute en boucle depuis le décès de Leonard Cohen, qui pour moi est un maître, et qui reflète parfaitement bien ma posture intérieure. À savoir qu'on a beau être dans des pratiques spirituelles, on a beau être positif et œuvrer pour la lumière dans le monde, il y a en moi, comme il le dit tellement bien dans cette chanson, une part de révolte, une part d'interrogation sur l'ombre sur Terre. Parce que c'est dur la vie humaine. Il y a quand même une majorité de gens qui sont en souffrance. Donc j'aime dans cette chanson sa révolte. Il s'indigne contre le Seigneur, il s'indigne contre Dieu, tout en disant « Ok, je suis prêt à venir à toi ». Hein, ce paradoxe intérieur, je m'y retrouve bien. Quoi.
Et il y a une intensité dans... C'était quelques mois avant qu'il parte.
Alors on dit qu'il a enregistré cet album à l'hôpital. C'était vraiment juste avant son départ. Donc quand il dit « je suis prêt », ça a une portée énorme, immense.
C'est fort de passer ces moments de sa vie comme ça, encore debout quelque part intérieurement.
Encore debout, encore dans la dignité et la faculté de s'indigner, les deux à la fois, c'est magnifique. Ouais.
Sur les petites routes qui bordent la côte pacifique, il y a des panneaux qui disent « faites attention, il y a des tortues qui traversent ». Et sur un petit chemin de terre, il y a un panneau qui indiquait qu'il y avait des personnes, des amis des tortues qui travaillent dans un endroit qui s'appelle Tortuguero. Qui est un endroit qui protège les tortues, donc puisqu'apparemment il y a pas mal de contrebande sur cette côte 2 de tortues qui sont apparemment très bons, très délicieux en omelette, et donc ils sont souvent volés par des personnes qui les vendent après très cher. Donc ces personnes là qui sont dans les Tortugueros, c'est des personnes qui s'occupent de sauvegarder la tortue et donc de ramasser les œufs et de les protéger dans des enclos.
Ay, ¿qué tortugas son estas?
Estas son tortugas negras. Esta es de la negra.
Sí.
Y aquí, en esta parte salen tres clases de tortugas. Sale la tortuga golfina, sale la negra y también sale de la U. La tortuga de la U Ha salido dos veces.
Ah, y es el de la laguna, sí. El du golf y la noire.
Sí.
Y esta es negra.
Esta es negra.
Pero no es negra de color.
Sí, esta es la tortuga negra. Y la tortuga golfina, acá tengo un...
Ah, mira, es increíble, es un bacín.
Voy a traer un sartén ahorita de tortuga golfina.
Ah, sí.
Espérame.
Il va m'amener un bac de tortuga du golf. C'est assez incroyable, elle grouille. Et elles sont toutes mignonnes.
Un petit reportage qui nous amène au Mexique, du côté des œufs de tortue. Mexique, où vous avez été, vous avez vu ces tortues?
Alors, j'ai pas vu les tortues, mais le Mexique, oui.
Alors, à 16 ans, malgré cette enfance idyllique, par beaucoup de côtés, par des parents intéressants, une fratrie, vous partez à 16 ans, parce que l'école vous ennuie, et vous partez au Mexique. Tout de go, comme ça.
Oui, alors, entre l'enfance idyllique, 16 ans, il y a l'adolescence, qui est moins idyllique. Lausanne bouge, voilà, les manifestations, les punks, des idées noires, une difficulté à trouver du sens à la vie à ce moment-là. J'étais vraiment dans une révolte intérieure puissante et ouais, très révoltée. Bah, on rejoint là aussi la chanson de Leonard Cohen, quoi. Très révoltée contre les injustices sociales, etc. Donc j'arrivais pas à me lier à la scolarité, j'arrivais pas...
Au système.
Ouais. Donc oui, un départ au Mexique avec une amie, Nina, et c'était un peu une opération survie. On est parti, bon d'abord on a gagné des sous pour pouvoir se payer nous-mêmes le
billet
d'avion.
Donc vous avez arrêté l'école?
Non, je travaillais dans un bar en annexe à l'école.
Okay. Ouais. Vous avez fini le certificat?
Je l'ai pas eu.
Ah, d'accord.
Mais disons que je suis allée jusqu'à 16 ans sur les bancs d'école, de moins en moins, mais enfin quand même.
Quand
ouais,
même.
Je suis arrivée jusqu'au mois de juin voilà, de la dernière année d'obligation scolaire. Mais sans vraiment y être dans la tête et le cœur. Donc on avait gagné des sous avec Nina pour se payer le billet d'avion, et aussitôt qu'on a pu, ben, on est parti à Mexico. Et...
À 16 ans.
À 16 ans.
Ouais. Là, enfin, aujourd'hui, on aurait
plus 16 ans et demi.
On aurait peur aujourd'hui de laisser des jeunes de 16 ans.
Ben, ma fille, maintenant, me confronte parce qu'elle a, 16 ans et demi, voilà. Elle est juste là maintenant, toute seule à Stuttgart, avec des copines, etc. Donc, comme maman, c'est sûr que c'est moins simple. Mais bon, moi, à 16 ans, c'était vraiment une histoire de survie, un appétit aussi de découverte. Et puis, je pense que j'étais très, très bien guidée, parce que c'était le bon endroit. J'ai découvert à Mexico ce qui a fait ensuite les fondements d'une grande partie de ma carrière, mais aussi de mes combats sociaux. À savoir que j'ai rencontré à Mexico le metteur en scène, comédien, Serge Sandor, qui m'a emmenée voir les prisons et surtout qui m'a fait découvrir tout ce travail d'activité artistique auprès des plus démunis. C'est quelqu'un qui travaille dans les hôpitaux psychiatriques, dans les prisons, dans la rue, avec des enfants.
Donc un art engagé.
Un art engagé, social, dans un but de réhabilitation de la dignité humaine.
Mais vous avez été mannequin, si j'ai bien lu mes notes.
Alors, je voulais pas rentrer...
Au Mexique.
Oui. Disons qu'avec Nina, on a voyagé 6 mois, parce que notre argent nous permettait de voyager 6 mois, puis après, on voulait pas rentrer. Donc, on s'est retrouvés à errer dans Mexico City, à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Faut qu'on trouve du travail. Et la magie de l'existence, les miracles dont vous parliez en ouverture de cette émission, sont arrivés, à savoir que j'ai fait la rencontre improbable dans la rue d'une femme qui m'a offert du travail. Elle avait ouvert une agence de mannequins, elle s'était lancée un défi, c'était en vivre, et puis elle cherchait des visages européens. Elle m'a proposé de travailler. Puis ça a marché. Donc, en fait, ça m'a permis de vivre 2 ans à Mexico.
Parfait.
Où l'argent, je le gagnais dans le mannequinat. Mais en même temps, je faisais plein d'autres choses, quoi. Et notamment, je me suis beaucoup intéressée, justement, à l'art social à travers ce travail de Serge Sandor. J'ai beaucoup voyagé. Alors, j'ai pas vu les tortues. Mais j'ai beaucoup voyagé dans le pays.
Mais donc aussi, un début d'expérience de cinéaste. Enfin, en tout cas, de comment on peut construire un documentaire, c'est ça?
Alors, comme mannequin, j'ai eu la chance de beaucoup tourner dans des pubs. En fait, donc
oui,
je me suis retrouvée les plateaux TV. C'est
mais mexicaine, quand même, c'est autre chose.
Complètement.
C'est autre chose.
Alors, ça ressemble beaucoup aux pubs américaines. Hein. Le Mexique est quand même un énorme producteur de films, avec des énormes studios, beaucoup de moyens. Et il y a pas mal d'étrangers qui viennent tourner au Mexique parce que justement, les côtes pacifiques, Caraïbes, etc. sont sublimes. Donc, je me suis retrouvée devant la caméra sur des plateaux de tournage et en regardant les réalisateurs travailler, je me suis dit, mais c'est un métier extraordinaire. On peut dessiner, écrire, écrire, voyager, réfléchir, réorganiser le monde, finalement, réinventer l'univers. Donc c'est juste magique et c'est ça qui m'a donné envie d'apprendre ce métier.
Donc vous êtes revenu en Europe, vous êtes revenu en Suisse et vous avez trouvé un moyen de vous former à bon niveau dans ce métier, ce qui est pas évident quand on n'a pas fini, quand on n'a pas une certification.
Alors je suis pas revenue en Suisse parce qu'effectivement en Suisse il y avait pas de formation à cette époque-là et les formations qui existent actuellement demandent d'avoir au minimum le bac. Donc en fait je suis revenue à Florence en Italie où là il y avait une école privée qui préparait à je dirais aux techniques du cinéma dont la réalisation de films, mais on touchait à tout, aussi bien le son que l'éclairage, que la direction d'acteur, que faire de l'image soi-même. Donc c'était une formation qui me convenait à merveille parce que moi j'étais très manuelle aussi, très autodidacte, j'avais besoin de goûter à tout. Donc ça m'a donné une base technique aussi qui était vraiment intéressante. Et ce que j'ai choisi par la suite c'était scénario et réalisation, mais ça fait rien, ça faisait quand même de moi quelqu'un qui était efficient aussi au niveau de la matière et pas que de l'imagination.
Et votre premier film ?
Alors, il y a eu d'abord des films qu'on dit films de commande, parce que j'ai commencé par là, et j'ai eu énormément de chance, parce que en film de commande, j'ai beaucoup fait dans le social. Donc j'ai eu la chance immense de travailler avec Nagan Sorge sur un documentaire pour La Main Tendue. Après,
Mais le premier, c'était Mon Père.
Alors le premier que j'ai choisi moi, de bout en bout, qui était vraiment une œuvre personnelle, c'est Mon Père, cet ange maudit, et c'est la trajectoire d'un gangster condamné à perpétuité dans 4 pays d'Europe, qui se retrouve en prison à Bochu, où il commence la peinture. Et moi, à l'époque, j'avais une galerie de peinture dans mon studio de film. Et du coup, avec mes associés, on l'a exposé, Donna Denis.
Donc, c'est une vraie histoire.
Donc, c'est un documentaire, ouais. Et j'ai commencé par exposer ses peintures, puis ensuite j'ai fait un petit film de 10 minutes pour qu'il puisse être présent au vernissage de son exposition.
Il était toujours en prison.
Il était toujours en prison, j'ai obtenu le droit d'aller le filmer, l'interviewer. Et il y a un réel intérêt qui s'est manifesté en moi pour sa trajectoire incroyable, mais qui faisait résonance avec ce que j'avais vécu dans les prisons à Mexico. Parce qu'en fait, cet homme condamné à perpétuité, jugé hautement dangereux, dans 4 pays d'Europe quand même, donc 4 fois perpète, il faut y aller, s'était mis à peindre en prison et à travers sa peinture, il y a toute une humanité qui se disait, qui transpirait de lui. Et sa biographie m'a intéressée, j'ai commencé par vouloir simplement connaître sa biographie pour écrire une fiction. Et en cours de route, je me suis dit, mais c'est incroyable, parce qu'en fait, l'histoire vraie de cet homme qui rencontre par ailleurs sa fille alors qu'elle a 20 ans. Moi, j'habitais à côté de la prison, et Cublan, donc du coup, sa fille Sabrina est venue loger chez moi la première fois qu'elle est allée en détention voir son père. Je me suis dit, mais il faut faire un documentaire. La fiction, là, est pauvre par rapport à la réalité. Oui. Et donc, mon premier film est un film documentaire sur l'histoire de la rencontre de cet homme avec sa fille qui ne savait pas qui était son père et qui se retrouve du jour au lendemain en prison face à un gangster condamné à perpétuité.
Et puis, l'art qui lui redonne une dignité humaine, qui est un facteur de résilience extraordinaire.
Alors, de résilience et dans son cas, de réhabilitation, parce que...
Il devient quelqu'un qu'on peut regarder, qu'on peut admirer, quelque
absolument,
part.
Absolument. Et ça lui donne le courage de ce téléphone. C'est grâce à sa peinture qu'il a pris le téléphone et qu'il a appelé Sabrina en lui disant « Coucou, je suis ton père, je suis en prison, mais je suis peintre ».
L'au-delà sans peur, c'est votre dernier ouvrage, enquête, témoignage et conseils pratiques. C'est aux éditions Favre. Encore un disque dans cette émission et on va y arriver à l'au-delà sans peur.
Ce qu'on veut tous, c'est la raison de son univers, comme le fleuve du Nil. Déo le genre, pas qu'une face, pas qu'une raison d'être, pas qu'une place, mais la seule dans les vers. De façon d'être, le guerrier sage n'utilise pas que la force. Nous, on mène nos projets à leur terme. Si c'est pour tourner la page, autant finir de la lire. Aucun nous ne sera en perme. Enfermé dans les années qui restent, c'est libéré du temps, bat oubli. Moi, j'ai arrêté de prendre la patience ou l'attente comme allié. Je marche aux côtés d'agir, peu importe le passé, et j'avance pas à pas. Un pied devant l'autre, appelle-moi Déo, le schizo, c'est comme tu veux. Je rappe sans cesse, sans stress, crie tout. Mes textes, je m'entête, arrête si tu bouges pas ta tête en fait. Je gueulerai frais comme les Targaryens, j'userai de ma colère pour faire bouger les choses. Par du temps, je voudrais brûler mon calendrier. Le pari de Pascal ne vaut pas que pour Dieu, mais aussi pour soi-même. Gagne, I will come Smith, and I still miss tous mes défauts, and I still miss tous mes défauts. Je vais casser la face, douleur de l'espoir. Casser tes ambitions si je les vois noires. On a douillé, t'as fait pour faire partie du game. On va se crever encore pour qu'à la cime on soit same. Dame cela dit, on est tous des humains, mais chacun son art. Je suis vicieux comme un serpentard. J'rêve d'amour tout part, j'ai des tas de déviance bien marquée d'élégance, prendre pas la violence, trop envie qu'elle meure, marque tu l'idole, je lui ferai pas de sacré cœur, elle a cassé mon cœur. Comme ce fan, moi je perds jamais la face, je ferai ma se plat, même si la chance est lasse, la compassion rouillée, parfois peur de la casse. faire le choix pas facile. Pas qu'une fois, je veux pas laisser qu'une trace, mais t'en retiens mes pas. La route est longue et peut tienne le pas. Y'a des tas de marches et trop peu de pages pour écrire l'histoire. Un univers naïf, t'as n'a qu'à mettre auréole pour se faire passer pour ange. Tu te sais quand je vais attendre, gens qui regardent vidéo trio. Au lieu de construire la leur, tu veux exemple parfait, t'as qu'à regarder les anges. J'ai autant d'avis d'hommes, j'ai fait le choix de faire savoir le mien. Entre amour et passion, je veux faire valoir les miens. Trop de gens attendent sur toi pour m'avoir, faut mériter son pas. J'ai commencé old school, je suis passé à la trappe. J'aime bien toucher à tout, laisse-moi toucher à toi. Je te ferai voir mes atouts, j'aime bien l'amour en soi, mais faut que tu sois à moi. J'aime bien tous les petits qui se battent, tous les petits qui se font, même quand la vie se fâche, quand je laisse tout qu'on fait, c'est express, tout qu'on fait, car risque par politesse, détresse à noyer tendresse, souplesse et à la vitesse, pas de bagarre si tard, pas de bavard ici, trop de monde au mitard, c'est qu'un problème ici, j'en ai jamais fini, je suis peut-être pas positif, mais j'ai besoin d'être parfois.
Alors, ce morceau n'est pas innocent. La voix de ce jeune homme Deyo, qui est en une voix très profonde, pas qu'une face. Et c'est votre choix de nouveau, Denise Kikou-Gillion.
Alors c'est mon choix parce qu'en fait Deyo est mon fils de 19 ans qui écrit du rap mais qui s'enregistre aussi, mixe et qui a fondé un groupe avec 5 de ses amis qui s'appelle ALG comme alliage. Et ce que j'admire énormément chez ces jeunes et en particulier chez Léo bien sûr, en toute objectivité de maman, c'est qu'ils sont dans quelque chose de très social et très engagé. Et j'aime beaucoup leurs paroles qui sont des paroles qui rejoignent ce qu'on a entendu aussi à travers Cohen et Patricia Cass, même si ça n'a rien à voir au niveau musical, où c'est ce qu'ils appellent du rap conscient, ça veut dire du rap qui véhicule un message, qui réveille les consciences. Donc j'avais envie de soutenir et merci de l'avoir diffusé parce que pour eux c'est extrêmement important. Et Léo est quelqu'un de très engagé, son vrai prénom c'est Léo, donc Deyo Léo est quelqu'un de très engagé qui va cet été animer un peu, je vais peut-être passer le virus, qui va animer en fait une semaine sociale et faire du rap avec les enfants migrants.
Très bonne idée. Beau projet dont on risque d'entendre parler encore sur cette antenne.
Bon, nous sommes tous esprits. C'est la première chose à comprendre. Tout le monde est esprit. Et tout le monde a un corps, mais n'est pas un corps. Donc, en étant esprit, on peut parler à un autre esprit. Simplement, ça ne se passe pas par les 5 sens connus, mais par ce que souvent est appelé le 6e sens. Et élaborer qu'est-ce que c'est ce 6e sens, d'apprendre à travailler son esprit afin qu'il puisse faire des choses comme communiquer avec quelqu'un de décidé. Un grand nombre des élèves, ce sont déjà des gens qui sont thérapeutes ou infirmières ou acupuncture, massage, etc. Et ça leur donne un élément ou un outil en plus pour traiter leurs patients. D'autres personnes qui ont eu des manifestations dans la maison, justement, parce que le papa est mort, puis ils le sentent toujours, etc. Donc, ils ont envie de savoir comment ou on arrête ces manifestations ou alors comment je communique avec de manière que ça soit sensé.
Vous avez reconnu cette voix, Denise Gillion.
Mais alors absolument, il s'agit d'Anès Jacob, que j'ai interviewé, mais qui surtout est le fondateur de l'école Fréquence, la première école de médiumnité en Suisse romande, qui est ouverte en 2005 à Neuchâtel, et qui est une école que j'ai suivie, donc ça a été ma première formation en médiumnité. Et on doit beaucoup ici dans la région à Anès Jacob, parce qu'il fallait quand même un certain courage d'ouvrir une école de médiumnité qui ne désemplit pas depuis qu'il l'a ouverte d'ailleurs.
Mais lui, il vient de quel horizon et comment vous l'avez rencontré?
Alors, il y a eu une de vos collègues, Anne Lietti, qui a fait un magnifique article à l'époque, je crois que c'était encore le Nouveau Quotidien ou le Temps, sur l'école Fréquence, lorsqu'elle ouvrait. Et j'ai rencontré Anès Jacob parce qu'en fait, ce papier m'a donné envie de suivre cette formation et j'ai rencontré Anès Jacob lors d'un premier entretien qu'il souhaitait avoir pour rencontrer des élèves potentiels, en fait.
Et justement, qu'est-ce qu'il demande dans cet entretien? C'est une façon de voir à qui il a affaire pour voir si la personne peut suivre cette formation ou pas.
Oui, absolument. Et je pense que c'est aussi une façon de vérifier que les gens ne soient pas fragiles psychiquement. Parce que comme on a affaire à un dialogue avec l'invisible, c'est sûr qu'il faudrait pas avoir des gens trop vulnérables de ce point de vue-là. Donc je sais que c'est une des choses qui vérifie. Mm-hmm. Après, je sais pas, ils vérifient plein de choses qui m'ont peut-être échappé.
Et donc vous avez suivi cette école pendant quelques années?
Oui, c'est une école sur 2 ans.
Sur 2 ans. Et qu'est-ce que vous avez appris dans cette école? Comment est-ce qu'on peut apprendre ce domaine-là?
Alors c'est passionnant parce qu'en fait nous sommes tous des âmes, nous sommes tous médiums. Donc c'est pas tellement qu'on apprend des choses qui nous seraient complètement étrangères. Je dirais on réapprivoise des contenus avec lesquels on habite toujours, avec lesquels on vit tout un chacun toujours.
Oui, mais que souvent on décrédibilise, on dit non mais enfin c'est juste moi, c'est juste dans ma tête, j'ai eu l'impression que c'est une illusion.
Absolument. Pourquoi? Parce qu'on est dans une culture qui valorise absolument pas cela. Et ce qu'on apprend, c'est à le valoriser d'abord, ensuite à faire la différence entre notre imagination et de réelles communications avec nos guides, des défunts, ou à percevoir lorsqu'on parle de guérison, parce qu'Anne Jacob est avant tout un guérisseur, avant d'être un médium, enfin il se dit médium guérisseur. Donc en guérison, ce qu'on apprend, c'est aussi à faire la différence entre nos propres perceptions et des communications qui viennent de médecins du ciel, d'alliés avec lesquels on peut amener une guérison spirituelle. Et finalement, c'est comme si petit à petit, on apprenait à décoder les choses, mais qui sont simplement des choses qui sont déjà en nous. Hein, c'est un savoir-faire qu'on a tout un chacun. J'insiste là-dessus parce que on croit des fois qu'il faut un don particulier ou que c'est complètement inaccessible. Mais non, c'est accessible parce que la médiumnité est d'abord un état d'être, un état de conscience. Et en le développant, c'est simplement apprendre à être dans un état de conscience légèrement modifié pour arriver dans un taux vibratoire qui permet la communication.
Donc, et ça s'exerce, en fait. C'est une discipline. C'est comme la méditation, c'est comme un sport. Ça peut se développer.
Alors, ça peut se développer. Tout un chacun peut le développer. C'est une pratique, d'abord, une pratique de développement personnel, une pratique spirituelle. Voilà, je peux dire ça comme ça. C'est une pratique spirituelle qui, d'abord, permet de mieux vivre. Il ne s'agit pas du tout de vouloir en faire profession pour l'apprendre. C'est d'abord quelque chose qui est un chemin de, ouais, qui est un chemin spirituel. Au même titre, vous le disiez très bien, que la méditation. Alors, je dirais même que la méditation participe de ce développement personnel parce que c'est la base de la médiumnité.
Et là, à un moment donné, vous avez fait ce film médium d'un monde à l'autre avec une médium valaisanne dont j'ai oublié le nom, madame.
C'est Céline Boson-Sommer.
Alors, et là, vous vous êtes lancée quand même dans quelque chose de, entre guillemets, assez casse-cou parce qu'à la fois faire une enquête de journalistique comme cinéaste et sur ce thème, ça a été un grand enjeu, je pense. Un grand défi de parler de ça.
Ouais, ça a été un grand défi, mais je pense que j'ai pu le faire d'une façon rigoureuse parce que je connaissais la médiumnité. Donc j'ai pris des risques avec Céline, qui était partie prenante. Par exemple, on a fait en direct, devant la caméra, des séances de médiumnité à des gens qui n'y croient pas. Ce que je n'aurais probablement jamais osé faire, parce que je mettais en péril le film tout entier, n'est-ce pas, s'il n'y avait rien eu devant la caméra. Si le résultat avait été de se dire, bon, il se passe rien, donc voilà, on boucle, ça faisait pas un film, ça.
Donc on va préciser pour nos auditeurs qui l'ont pas vu, que la médium avait les yeux bandés, qu'on était dans un lieu quelconque, dans un
oui,
bistrot, dans un hôtel.
Oui, dans un hôtel.
Et des gens avaient répondu à une annonce pour vivre cette expérience. Donc elle était pas chez elle, dans son antre, en regardant les gens. Tout était comme ça, très, très soft, très simple.
Oui, on
avait... Elle disait des choses, elle voyait des choses.
Oui, on avait, avec le producteur Pierre-André Thiébaud, vraiment réfléchi à un processus qui garantisse qu'on ne puisse pas dire « oui, mais les gens y croient, oui, mais elle fait de la lecture psychique, hein, elle va voir dans l'autre les informations qu'elle délivre ». Donc tout le protocole était extrêmement rigoureux. Les gens devant elle étaient des personnes qui avaient répondu à une petite annonce dans laquelle on disait « vous ne croyez pas en l'au-delà, vous ne croyez pas en la survivance de l'âme, venez faire un test avec nous pour un tournage ». Elle avait, comme vous l'avez dit, les yeux bandés et du coup elle faisait un contact médiumnique, ça veut dire qu'elle se mettait en lien avec un défunt qui concernait la personne. Elle le décrivait jusqu'à ce que la personne puisse reconnaître ou pas le défunt en question. Et dans les les cinq, parce qu'il y a eu cinq tests, mais disons trois, avec vraiment des gens du grand public. Ça a été complètement émouvant, probant. Et puis les deux autres personnes étaient des scientifiques. Il y avait un psychologue que j'avais convié et une biologiste, spécialiste des neurosciences. Alors avec elle, c'était plus difficile. Elle est restée sur sa réserve tout le temps, n'est-ce pas? Parce que parfois, on ne peut pas changer d'avis non plus quand on vit dans des paradigmes très carrés comme ça. Et chez elle, c'était très fort, hein, étant donné que tout le fondement de sa carrière de neuroscientifique était basé là-dessus. Elle est arrivée sur le tournage avec une impossibilité de remise en question. Je dirais, mais c'était passionnant aussi.
Elle l'a quand même fait.
Elle l'a quand même fait. Céline avait quand même, moi j'ai trouvé, des informations tout à fait pertinentes à lui délivrer.
Et ce qui était intéressant, c'est que certains, parce que je me rappelle très très bien ce film, avaient vécu une expérience émotionnelle au moment où la médium parlait, mais après, en interview après, il disait toujours « j'y crois pas ».
Oui.
C'est très intéressant.
Bon, ça, je pense que c'est le propre de l'humain. Hein. Quand on vit pendant des années avec un paradigme « je n'y crois pas », c'est un tel changement tout à coup de se dire « ok, alors si je survivais à ma propre mort ». Parce que c'est ça qu'il y a derrière. Ça bouleverse de fond en comble le sens même de la vie. Donc c'est pas si facile. C'est un processus petit à petit qui permet vraiment de changer profondément ses croyances. Mais la personne la plus virulente devant la caméra qui dit non, mais quand même, c'est pas possible, etc., a écrit par ailleurs à Céline en la remerciant parce qu'effectivement, ça a changé durablement quelque chose dans son cœur, quoi, en lui.
Alors, dans les multiples expériences que j'ai faites, vraiment la compréhension est apparue que toutes sortes de thérapies qui aujourd'hui n'ont pas de validation scientifique déploient néanmoins une efficacité. Et d'ailleurs, quand on observe ce à quoi la population s'adresse pour faire face à ses besoins de santé, ben aujourd'hui en Occident, à peu près 80% des personnes s'adressent à ces thérapies alternatives et en retirent un certain nombre de bénéfices. C'est-à-dire que la science ou les autorités politiques nous disent non, ça n'existe pas, ça n'est pas prouvé. Donc on est dans quelque chose qui à la fois est très largement partagé collectivement, mais qui n'est pas reconnu au niveau des instances officielles de définition du savoir. Et c'est évidemment une situation qui m'a interpellé.
Donc, vous reconnaissez cette voix ?
Oui, bien sûr, Jean-Dominique Michel, anthropologue de la santé à Genève, est un des premiers à avoir étudié et aussi appris les pratiques d'opération psychique des Philippins.
Exactement, et qui vous a mis, je pense, en contact avec Alex Orbito, qui est un grand personnage qu'on trouve sur Internet. Je veux dire, on peut voir des expériences qui ont été faites. Il a été même mis dans des boîtes pour voir ce qui se passe au moment où il fait le travail de guérison. Donc, c'est vraiment un personnage connu dans ce domaine.
Oui, alors absolument. Jean-Dominique, je l'ai rencontré d'une façon extraordinaire. C'était aussi un petit miracle, cette rencontre. Le bon moment, la bonne personne, le bon endroit. Et justement, je l'ai rencontré un jour. Il organisait un séminaire à Genève avec Alex Orbito. Donc, on a déjeuné ensemble. C'était la première rencontre. Et à l'issue de ce déjeuner, il me dit, monsieur, tu veux le rencontrer? Je te le présente, il est là. Juste à 20 mètres, on est allé. Il m'a introduit dans l'équipe. Et à partir de là, je me suis formée aux Philippines, ça a été une rencontre fondamentale pour moi. Et c'est devenu la médecine que je choisis pour moi-même quand je suis malade.
Alors, on arrive gentiment au moment de se quitter, Denise Kikou-Gillian. Je rappelle le titre de votre livre, L'au-delà sans peur, c'est aux éditions Favre. Et évidemment, la question clé est comment reconnaître les bons dans ces médiums guérisseurs ou dans ces voyants, parce qu'on fait un peu de mélange de tout ça. Est-ce que vous avez une ou deux suggestions? Parce qu'il y a des abus et que souvent, quand on va voir ces gens, on est dans une situation de vulnérabilité.
Oui, excellente question. Alors d'abord, faire la différence entre la voyance et la médiumnité. Les médiums ne sont pas des voyants, on ne fait pas de prédiction. On peut faire du coaching, coaching spirituel, à savoir conseiller la personne là où elle en est dans sa vie, aider à une guérison psychique, physique et spirituelle, mais en aucun cas faire de la voyance, parce qu'on est soumis ici sur Terre au libre arbitre, n'est-ce pas? Et on ne peut pas, notre destin n'est pas prédéfini. Ça, c'est la première chose, ne pas confondre. Et la deuxième chose, je dirais, faire appel à son bon sens. Il faut écouter vraiment très très bien ce que nous dit le médium ou le médium guérisseur, de façon à être certain qu'il y ait dans le contenu de ce qu'il nous dit des choses qui nous font du bien. Une séance de médiumnité guérissante doit nous faire du bien. Si à n'importe quel moment on ressent un inconfort, on a l'impression qu'il y a un abus de pouvoir, ou on essaye de nous vendre quelque chose, on a le droit d'arrêter la séance et de dire « Écoutez, je suis pas bien avec ce que vous me dites, on peut le faire très gentiment. Je suis navrée, j'ai pas envie qu'on aille plus loin. » Si la personne commence à faire des prédictions qui nous conditionnent, qui nous enferment dans quelque chose, aussi, arrêter la séance immédiatement. Il n'y a pas un mode d'emploi, il n'y a pas de diplôme de médiumnité, donc on peut pas faire un choix sur Internet en disant « Ah, celui-là, il m'inspire confiance ou pas. » Mais par contre, au moment de la séance, vraiment, s'il y a un abus de pouvoir, si la personne commence à faire des prescriptions de médicaments, par exemple, ou conseiller d'arrêter un traitement thérapeutique, ou que sais-je, là, il y a danger en la demeure. Donc, il en va de notre cœur et de notre bon sens, je dirais. Et le bon sens nous donne vraiment le droit de dire non à tout instant. Une amie m'avait dit cette phrase magique que je répercute ici, c'est « non » est une phrase complète.
Denise Quicot, Gillian, merci beaucoup. Je vais rappeler quelques événements. Donc, jeudi 19 avril, vous donnez une conférence à Payerne autour de votre ouvrage. Vous serez au Salon du Livre à Genève le 29 avril à midi, conférence et dédicace du livre. Et aussi qu'on peut télécharger sur votre site la méditation sur l'amour, qui est une pratique, comme on l'a dit, même si on se réveille grognon.
Mais absolument surtout si on se réveille grognon.
Merci et belle soirée à vous.
Bonne soirée.
Samuel Maurier-Genoux est en régie ce soir. François Piton a choisi les musiques et Diane Dufaux est notre assistante de production. Demain, la journaliste Elisabeth Gousselin décline la vie de Marcello Mastroianni dans sa bio « Les nuits blanches » de Marcello. C'est aux éditions Grasset. De l'espace, c'est après les infos. 21h sur la première. Belle soirée à vous.